Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Et oui, il est 6h. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, on a de la musique. Il est 6h avant minuit, vous écoutez bien votre émission d'actu locale sur Syllab. Avez-vous déjà entendu la chanson la plus mystérieuse d'Internet? Ça fait presque 20 ans que des milliers d'internautes enquêtent sur l'origine de ce morceau. Ce titre, diffusé à la radio dans les années 80, est un des plus vieux mystères du web. Cet extrait musical, au son new wave bien goth, était jusqu'à aujourd'hui connu comme The Mysterious Song, TMS, ou encore Blind the Wine, ou bien Like the Wine. Aucun indice sur le titre du morceau ou sur le groupe qui l'a composé. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il avait été enregistré entre 1982 et 84 sur une station de radio allemande. Un mystère qui vient d'être éclairci après des années d'enquête en ligne grâce à des milliers de personnes à travers le monde. Après des dizaines de pistes infructueuses, de canulars et de trolls qui revendiquent la paternité du titre, un détective internaute a enfin tiré le jackpot. Dans les archives du journal allemand Nordwest Zeitung, merci pour l'accent, il lit la mention d'un groupe appelé FEX, FEX, originaire de Kiel, qui avait remporté un concours de talent à Brême en septembre 84 et dont la musique était décrite comme du rock avec des influences de wave et de pop. Il contacte donc un des musiciens qui lui envoie un morceau complet intitulé « Subways of Your Mind ». « Subways of Your Mind », c'est une des phrases récurrentes du refrain. Plus de doute possible, les membres du groupe ne savaient absolument rien du phénomène. Ils prévoiraient de réenregistrer la chanson et même de produire un clip. C'est ça, la magie d'Internet. Tout de suite, le flash de Cyriane.
Continuer le combat, c'est ce qu'a appelé à faire ses partisans et partisanes Kamala Harris après sa défaite face à Donald Trump hier. Et ce, alors qu'en parallèle de la présidentielle, l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat sont renouvelés aux États-Unis. Après avoir remporté le Sénat, les Républicains ont maintenu leur avance dans la course à la Chambre des représentants, avec 206 sièges acquis à ce stade, contre 191 pour les démocrates, selon l'agence Associated Press. Les soutiens du président élu ne sont plus qu'à 12 sièges de conserver la majorité absolue, qui garantirait à Donald Trump et son parti un contrôle total du Parlement américain. Mais qu'en pensent les citoyens et les citoyennes ? Pour cet événement historique, l'Institut franco-américain de Rennes avait organisé un petit déjeuner à 7h30, tapante, accompagné d'un écran géant pour assister aux résultats des élections présidentielles. Eva y était et s'est levée telle une guerrière, et elle nous raconte ce qu'elle a vu et surtout entendu.
Je dirais que je suis dans un état de sidération.
Aïe, ça commence mal. Une ambiance pesante à 8h30. Pourtant, l'espoir était encore présent il y a de ça une heure. En effet, à 7h30, Steve Bertoli, le vice-président du comité de jumelage Rennes-Rochester, et Brack Tipol, un jeune étudiant américain en échange à Rennes, témoignent.
Mes attentes, j'avais voté démocrate, donc on va voir. Tout n'est pas compté.
Je suis très nerveux. Les premiers résultats des élections étaient assez décourageants ce matin quand j'ai pris mon téléphone, mais ne sont pas finaux. Les résultats républicains arrivent tout le temps en premier parce qu'ils proviennent de plus petits États, donc il y a moins de votes à compter. Ce sont les premiers votes qui sont soumis. J'espère vraiment que les derniers 6 swing states vont être bleus. Enfin, on verra.
Il est vrai que, pour le côté démocrate, l'heure est à la sidération, comme nous l'a dit Edith Lecadre, membre de l'Institut franco-américain. Peu avant 9h, Donald Trump atteint les 267 grands électeurs. Et Eric Beatty, président du comité de jumelage Rennes-Rochester, souhaite nous rappeler.
Il n'a pas encore les 270 voix électorales, en fait. Vous avez entendu tout à l'heure, quand j'ai fait... Il en a 267.
En plus de Eric Beatty, l'américaine et présidente de l'Institut franco-américain, Virginia Manhard-Lubin, nous donne son ressenti face à ses premiers résultats.
J'attendais plutôt un résultat plus serré. Je ne suis pas surprise par cette victoire, mais je suis légèrement surprise par l'écart qui semble creuser.
9h30, Virginia Manhard-Lubin ajoute quant à l'économie.
Quand on perd son emploi, on en perd son assurance santé et on se trouve sans logement. Et donc pour les Américains qui ont vu les prix de leur panier au supermarché augmenter énormément dans ces derniers 4 ans, ils se disent « tentons Donald Trump ».
Tentons Donald Trump et le cap choisi pour les prochains 4 ans aux États-Unis. Et maintenant, il est 10h30, le petit déjeuner est fini et sera de retour dans 4 ans lui aussi.
Merci Eva pour ton reportage. Encore un résultat historique hier soir en Ligue des Champions pour les Brestois. Victoire 1-2 face à une équipe du Slavia Prague jouant à domicile. Les Finistériens, RPZ encore une fois, 3e au classement de la compétition, peuvent désormais sérieusement envisager une qualification en barrage. Battus eux aussi 1-2, c'est encore la douche froide pour les Parisiens, mis en échec à domicile par les joueurs de l'Atlético de Madrid. Et ce n'est pas ce résultat qui a marqué les esprits hier, mais un tifo déployé en tribune à l'initiative du collectif Ultra Paris. Free Palestine, la guerre sur le terrain mais la paix dans le monde, était inscrit sur le grand bout de tissu recouvrant une partie du Parc des Princes. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a réagi sur X, ex-Twitter, ce matin. Ce tifo n'avait pas sa place dans ce stade, et de tels messages sont d'ailleurs proscrits par les règlements de la Ligue et de l'UEFA, a écrit l'ex-membre des Républicains. Le PSG ne sera cependant pas sanctionné, comme l'a indiqué jeudi l'instance du foot européen à l'AFP. Il n'y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis, a précisé son porte-parole. Un message de paix déroulé alors que cette nuit encore, les bombardements faisaient rage dans le sud de Beyrouth. La capitale libanaise ayant subi au moins 2 frappes, l'une d'elles ayant causé des dégâts dans des bâtiments de l'aéroport international de la ville, selon un responsable. Un drone israélien a également visé une voiture sur une importante route reliant Beyrouth à l'est du Liban et à la Syrie, a rappelé l'ANI, l'agence libanaise d'information. Demain à 19h aura lieu la 13e édition de TEDx Rennes au Triangle, un événement porté par l'association Bretagne Idées Larges. Le concept, 6 conférences de 18 minutes maximum tenues par des spécialistes dans leur discipline. Au programme notamment Aline Jallier, ancienne chanteuse lyrique reconvertie en coach vocal et consultante formatrice pointant les stéréotypes disqualifiant la voix des femmes. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Plusieurs initiatives sont mises en place pour lutter contre ce fléau. Maxence et Thomas nous expliquent tout.
Ce fléau qu'a déjà subi un enfant sur 5 touche tous les niveaux. Actuellement, 5% des écoliers, 6% des collégiens et 4% des lycéens, ce qui représente en moyenne 1 à 2 élèves par classe qui sont affectés par le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, 7,5 millions d'élèves ont été incités à remplir ce questionnaire de façon anonyme dans le but de libérer la parole. Le questionnaire a été mis en place pour la première fois l'année dernière. Ce sont ensuite aux équipes pédagogiques d'encourager les victimes potentielles à témoigner. La grille comporte une trentaine de questions parmi lesquelles on peut trouver « As-tu peur d'aller à l'école ? » « As-tu mal au ventre à cause de ce que tu vis à l'école ?» ou encore « Manges-tu seul à la cantine ?» La diffusion de messages et de photos sur les réseaux sociaux sont également mises en question dans la grille d'auto-évaluation. Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation nationale, a souligné l'importance de lutter contre le harcèlement scolaire, un phénomène qui affecte gravement le climat scolaire et la vie des élèves. Son association Faire Face propose des interventions en milieu scolaire pour la prévention, une aide juridique et financière pour les familles en difficulté, ainsi que des formations pour les parents, en ligne et dans les entreprises. Anne Genetet, actuelle ministre de l'Éducation nationale, a également mis en place des mesures pour former les parents et les enseignants, et une nouvelle plateforme du CNED a notamment été créée pour offrir des formations aux parents des élèves en plus de cours d'empathie.
C'est vrai que c'est une bonne initiative. Un autre exemple d'une lutte contre le harcèlement réussi peut être celui du collège Champollion à Dijon. Situé dans le quartier des Grésilles, il est pris en exemple par le rectorat de Dijon pour ses initiatives innovantes et efficaces. Depuis septembre 2023, l'établissement a mis en place un programme intensif avec un fort engagement des élèves. Parmi les initiatives, on trouve les Bienveilleurs, un groupe de 18 élèves volontaires formés à l'écoute et à la médiation. Chaque mardi, ces élèves se réunissent pour en discuter et libérer la parole autour du harcèlement. Ils interviennent également dans les classes pour sensibiliser leurs camarades. Les élèves participent aussi au concours national Non au harcèlement et ont réalisé un film pour expliquer comment réagir face au harcèlement. Et cette année, ils mettent l'accent sur la compréhension des motivations des harceleurs. Les professeurs et les parents jouent également un rôle crucial. Frédéric Lamblot, professeur d'anglais, est la référente de la lutte contre le harcèlement dans l'établissement. Et certains parents s'impliquent activement pour relayer les actions et sensibiliser les autres parents. Donc au final, une solution possible au harcèlement, c'est évidemment d'en parler. Mais bon, on sait que seul, il peut être difficile de s'exprimer sur ces problèmes. De ce fait, Nora Thirène Fraisse, la fondatrice et directrice générale de l'association Marion La Main Tendue, a transformé sa douleur en action en lançant une pétition en ligne recueillant près de 80 000 signatures. Depuis son instauration en 2015, nous luttons davantage contre le harcèlement. Cette journée dédiée permet d'ouvrir les yeux au grand public sur ce malheur social. Nous espérons seulement que toutes ces actions pourront un jour porter leurs fruits.
Chez Exemplaire, au global,
et surtout,
vous avez perdu.
C'est Yann qui reprend. Et surtout, si vous en êtes témoin, parlez-en, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Vous êtes responsable aussi. Bref. Donc, merci à vous pour votre papier, Maxence et Thomas.
Merci.
Le 26 octobre dernier, le soleil brillait au-dessus du palais du Grand Large de Saint-Malo, aussi étonnant qu'idéal pour le festival Quai des Bulles, durant lequel Cess a pu rencontrer Marion Amir Gagnan, éditrice aux éditions Exemplaires. Que ce soit via son nom ou son logo en forme de camembert, la maison d'édition indique clairement son projet. Assurer une rémunération juste et équitable à ses auteurs et autrices. En septembre, Exemplaire annonçait la nouvelle collection Copy, dédiée à la publication de manga One Shot. Et à la veille de Quai des Bulles, annonce retentissante. Attention. Exemplaire sort une seconde collection intitulée Romance Queer. On écoute Marion Amir Gagnan nous la présenter.
Chez Exemplaire, au global, on n'a pas envie non plus de s'endormir sur nos lauriers et on veut vraiment être capable de pouvoir proposer des choses un petit peu novatrices et un petit peu hors des clous pour tous les publics. Et la collection Copy, c'est vraiment ça aussi. C'est l'idée de dire, voilà, on est sur un truc hybride, on est sur quelque chose un petit peu au carrefour de différentes choses. On ne veut pas s'enfermer dans un style graphique, on veut ouvrir la collection à tout type de récits. Là, on a un manga sur les ovnis. On a un manga plus sur un univers un petit peu cute, mignon, naïf, avec des petits personnages animaliers. Et on a une espèce de grande aventure médiévale, fantastique, d'un amour lesbien entre une créature et une chevalière. Enfin, il n'y a aucun point commun à part le fait d'avoir telle personne propose son aventure, son idée, son univers sur une aventure qui commence et qui se termine en un seul volume. Et ma foi, si jamais ça a beaucoup de succès, on verra après. Hein. Pour définir la collection, c'est important de dire que ce sont des BD qui sont issus, ou en tout cas inspirés du manga. Mais on va plus être sur des objets et des propositions artistiques qui vont être un peu hybrides. Certaines personnes vont être dans un dessin manga un peu plus stéréotypé, avec des codes qu'on connaît, avec des styles et des rendus qu'on connaît. Puis on va avoir d'autres personnes qui vont avoir des univers en fait, qui sont un peu en marge entre la BD, le manga, éventuellement le comics ou même le graphisme pur. Les profils pour la collection Copy, ils sont vraiment très très divers. On va avoir des profils de personnes qui sont pas parties dans l'idée de faire des livres dans leur vie en fait. Et puis on est sur des types d'auteurs, autrices qui vont avoir tendance à être suivies aussi par beaucoup de gens à l'international. Et ça aussi pour nous c'est un vrai défi parce qu'on se rend compte que bon bah on est quand même dans une exception culturelle en France, hein, que acheter du livre, acheter de la BD, c'est un réflexe qui est quand même français. Et d'où c'est ça qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur la collection Copy, c'est comment on va sur des auteurs un peu surprenants, dont on va pas forcément attendre un livre ou un manga ou quoi, et que quand on propose ça, les gens se disent ah ouais c'est chouette.
On vous invite à découvrir certains et certaines des 13 artistes annoncés dans la collection Romance Queer. En écoutant l'émission, j'irai cracher sur vos ondes le lundi 25 novembre à 19h sur CELAB. Oui, car on fait aussi de l'autopromo.
Faut bien.
C'est important. Écoutez CELAB. Pas que 6h avant minuit quand même. Faut faire croquer. Bref. La dalle du gros chêne, c'est fini. Rassemblés hier, les habitants et habitantes de Morpa étaient invités à discuter du projet de réhabilitation du quartier avec les architectes. Construite dans les années 60, pour accueillir le centre commercial, la dalle va, après les travaux, laisser place à un sol naturel, arboré et piéton, et desservant de nouveaux commerces. un quartier classé prioritaire de la ville avec la moitié de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté et un tiers des 16-25 ans déscolarisés ou au chômage. C'est donc une rénovation vue comme un petit espoir de redynamiser le quartier. La livraison est espérée pour 2027.
Et on parle d'un autre chantier dans la ville de Rennes, Cyriane. Celui-là, il est lié à une histoire vieille qui date de la Seconde Guerre mondiale, je crois, c'est ça ?
Ah ouais, un vieux truc. Hein. Là, on parle d'un blockhaus. Un blockhaus oublié, transformé en local à vélo. Cette fois-ci, c'est l'Hôtel Dieu qui se refait une beauté. Vestige de l'occupation allemande, le bunker situé à 300 mètres de la place Hoche fait partie du grand plan de réaménagement de l'Hôtel Dieu. Mais pourquoi n'avait-il pas été détruit jusqu'alors ? La raison, c'est tout simple. Attention, petit chien. À votre avis, combien de tonnes de dynamite a-t-il fallu pour détruire en 1988 le blockhaus se trouvant place de la gare ? Attention, faites vos paris autour de la table. Plusieurs centaines.
Qui dit mieux ?
Eh bien, c'était 430 kilos. Bref, aujourd'hui, on recycle plutôt que de détruire. Les habitants et habitantes, et même les usagers et usagères des espaces de coworking pourront y accéder. Comme quoi, on peut vraiment tout rendre corporate.
C'est magique. Merci Cyriane pour ce flash de qualité. Ce soir, avec Anthony, nous avons une invitée.
Il est midi. La radio sauvage.
Minuit. Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Lunettes transparentes, tenues tout en dégradé émeraude, Agnès Frémont est réalisatrice, programmatrice et coordinatrice du Mois du Doc au sein de l'association Comptoir du Doc qui porte l'événement en Ille-et-Vilaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Peut-être que pour commencer, vous pourriez nous présenter votre asso, Comptoir du Doc.
Exactement, donc Comptoir du Doc est une association rennaise qui programme des films documentaires, seulement documentaires, à l'année. On a 7 événements à l'année. Et le Mois du Doc est un événement, l'événement le plus long, parce qu'il dure un mois. Voilà.
Au sein de cette organisation, vous occupez de coordonner le Mois du Doc, donc le Mois du film documentaire, pour le dire autrement. C'est une initiative nationale qui existe depuis 25 ans cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ses objectifs ?
Alors, ses objectifs, c'est faire découvrir le genre cinématographique qu'on connaît peu, ou en tout cas qui n'a pas une presse bling-bling, on va dire, comme la fiction. Mais il y a une production énorme de films documentaires. Et c'est un genre qui a une grande liberté, aussi bien dans les sujets qu'il aborde, et aussi la mise en scène qu'on peut utiliser, au même titre que les ingrédients, les outils de la fiction. C'est-à-dire, voilà, l'image, le son, on peut scénariser, on peut... Voilà. Mais l'outil, on va dire, la base, c'est le réel. Voilà, c'est ce qui se passe autour de nous, et c'est l'autre aussi. Donc c'est très riche, et il y a une très grande diversité de films. Et le Mois du Doc, comme tu disais, est un événement national. Ça fait 25 ans que ça existe. Et nous, on a la chance de le coordonner sur le département, en proposant une sélection de films qu'on découvre en festival, ou qui sortent au cinéma, mais qui malheureusement ne sortent pas jusqu'ici, où il y a juste une avant-première. Et que nous, en fait, l'événement est itinérant. Donc on va aussi au-delà de Rennes. On va en milieu rural aussi beaucoup, où on transforme la salle des fêtes en salle de cinéma. Donc c'est un vrai événement. Ça a du sens de montrer des films et de montrer ce genre de films.
Quels sont vos partenaires dans l'organisation de ce mois ?
Alors les partenaires principaux, ce sont des médiathèques. Médiathèques et bibliothèques bénévoles dans les petites communes. Souvent, il n'y a pas forcément de salariés. C'est tenu par des bénévoles. Ensuite, on a quelques ciné-clubs, dont le Tambour, qui a participé hier soir avec une salle comble. Il y a eu plus de 200 personnes.
Super,
avec le film Un pasteur de Louis Anquet, qui fait une tournée bretonne. On a quelques cinémas associatifs aussi qui participent à l'événement, même si les cinémas passent des documentaires à l'année, puisque comme il y a des films qui sortent quand même. Et on a des structures culturelles, comme le FRAC, qui participent aussi, des MJC, la MJC de Cornu, voilà, qui participent depuis quelques années, et on a les établissements scolaires, des collèges et lycées. On organise aussi des séances scolaires. Comme les réalisateurs, on s'occupe de la tournée des cinéastes. Comme ils sont là pour 2, 3, 4 ou voire 10 jours, bah on profite de leur présence la journée pour faire des séances scolaires.
Voilà. Le week-end dernier, au Champ Libre, avait lieu un événement pour mettre à l'honneur la parole filmée. Comme ouverture de ce Mois du Doc, est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux jours intitulés « Porter la voix » ?
Oui, alors du coup, depuis 3 ans, on a un partenariat avec les Champs Libres pour ouvrir le bal, on va dire, week-end d'ouverture, et souvent sous forme de thématique. L'année dernière, on a invité Denis Gerbrandt, par exemple, pour présenter son travail, qui est un cinéaste qu'on connaît peut-être pas, mais en tout cas qui compte dans l'histoire du cinéma documentaire. Et cette année, on a fait un corpus de 4 films autour de porter la voix, c'est-à-dire la force de la parole. Des fois les paroles empêchées, des droits empêchés aussi. Et du coup, dans ces films, les cinéastes leur donnent la parole personnelle qui devient collective. Et on a eu des films assez forts. On a appelé ça porter la voix parce que ça tourne autour aussi du chant, de la parole chantée, déclamée. Et aussi jouer, voilà, parce qu'il y avait aussi le film Je reviens dans 5 minutes sur l'artiste Fantasio qui voulait filmer son père. C'est un très très beau film. Et Frida TV aussi, qui est une femme qui a plusieurs identités, qui a besoin de se mettre en scène et qui dit des vérités peut-être qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors en tant que humain. Et voilà, c'était la parole comme force, force de peut-être de changement aussi, et de prise de conscience. Donc,
c'est très actuel comme sujet.
Oui. Et c'était chouette, c'était un très beau week-end, il y a eu du monde, et c'est toujours gratuit, donc c'est toujours, c'est ouvert à tous et toutes.
Comment sont sélectionnés les documentaires diffusés ce mois-ci ? Les programmes sont différents partout en France ?
Exactement, en fait... toute structure culturelle peut participer au mois du doc, parce qu'il y a une association nationale qui propose une sélection de films, et il y en a plein. Et nous, on fait ce rôle-là au niveau local. Donc, on propose des films. Moi, j'en vois beaucoup, beaucoup. J'en vois, 80, 90, on va dire. Et j'en propose, comme on est une association, on a des adhérents. Et du coup, on leur propose de participer à un groupe de programmation. Donc, vous pouvez aussi adhérer, n'importe qui peut adhérer, pour voir des films documentaires. Donc, on se réunit une fois par semaine, en mars, avril, mai, ça dure 3 mois. Et je propose mes présélections, je vois, et on en parle, on mange ensemble, une fois par semaine, le mardi soir. Et ensuite, on vote collectivement pour une sélection de films. Et tous les ans, on propose 12 films, aux structures partenaires. Comme je disais, les médiathèques, les cinémas, les ciné-clubs. Et après, libre à eux de faire leur choix dans ces coups de cœur. Après, s'ils n'ont pas de coup de cœur parmi notre sélection, chaque structure culturelle peut passer à un film pendant le mois du doc. Voilà. Et c'est répertorié dans notre catalogue aussi, parce que c'est toujours des projections rencontres. Il y a toujours une rencontre avec le cinéaste ou membre de l'équipe, ou des associations autour du sujet, par exemple, qui peut être important. Il y a toujours un débat derrière avec le public.
Y a-t-il des particularités dans la programmation sur notre territoire ?
Alors, il y a, au-delà du week-end d'ouverture où il y a une thématique sur porter la voix, ensuite, c'est une grande diversité de films. Ils sont tous très différents. Donc, du coup, il y en a pour tous les goûts, on va dire, en fonction de ce qu'on a envie de voir, et des formes aussi assez différentes, aussi bien des films contemplatifs, des films plutôt politiques ou aussi où la parole est au centre. Ou aussi, par exemple, j'en cite quelques-uns. On a un film qui s'appelle Needs Island qui est passé une fois à Rennes, l'Arvor, en début d'année. Et du coup, on a voulu le proposer et autour du jeu vidéo. Et où les 3 réalisateurs ont créé un avatar. C'est un jeu vidéo survivaliste. Et qui eux-mêmes sont réalisateurs au sein même du jeu. Et on a une séance à Creative Seeds, qui est une école d'image 3D, qui est assez son. Donc si ça vous intéresse, c'est le mercredi 19, et c'est ouvert, c'est à 17h30, avec un des réalisateurs qui sera là pour parler son expérience de réalisateur et aussi de joueur, pour parler des gens. En fait, ça parle... Moi, je connais rien aux jeux vidéo, j'y joue pas, dans ma génération, j'ai rarement joué, mais en tout cas, ça permet de connaître un jeu, mais aussi l'usage, pourquoi les gens y jouent. Et c'était pendant le Covid, donc qu'est-ce que ça a apporté et puis des films
Est-ce qu'il y a des thèmes
particulièrement marquant cette année lié à l'actualité.
Il y a l'actualité, il y a aussi un film qui s'appelle Sauf qui peut. On a une petite tournée du 13 au 24 novembre sur la formation à l'empathie pour les jeunes soignants, voilà, qui font des études de médecine. Parce qu'au-delà des livres, c'est qu'ils ont devant eux des patients et que c'est comment on annonce une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est et aussi comment les soignants aujourd'hui, avec le système qui va mal, où il n'y a plus de temps, où il n'y a plus à travers le théâtre, à travers le théâtre forum, comment les soignants peuvent en parler et résoudre les problèmes. Et en tout cas, donc c'est un film très fort qui joue aussi sur la fiction, parce que c'est sur les simulations médicales. C'est que des comédiens jouent des faux patients et du coup devant des étudiants qui s'exercent en fait à soigner et à rentrer en contact et savoir quoi dire, quoi faire. C'est un film très fort, voilà. Sauf qui peut. Il y a aussi Un pays de papier sur Mélanie Leverger, qui est une avocate rennaise qui est assez connue pour défendre les droits des mineurs étrangers, pour faire respecter la loi qui n'est pas forcément respectée, qui doivent, enfin là, ils sont mineurs, ils doivent être mis à l'abri et on met en doute leur minorité. Ça, c'est un film aussi qui passe pas mal.
Qui avait été diffusé à l'Arvor, je crois, il y a quelques semaines, moi, il me semble.
Il a eu une avant-première au TNB où il y a eu plein de monde. Oui, c'est. Et là, du coup, elle fait une tournée régionale parce qu'on a quatre films qui font une tournée régionale, donc au-delà, voilà, sur les quatre départements. Mais c'est des films différents. Photophobia aussi sur la guerre en Ukraine. Vu par les enfants, voilà, sur les premiers mois de la guerre, quand la guerre a été déclarée en février, les gens qui vivent dans les stations de métro, en fait, qui sont réfugiés là et qui sont condamnés à rester là, et c'est le point de vue des enfants. C'est un très très beau film, et on a la chance d'avoir un des réalisateurs slovaque qui va venir à la fin du mois.
Et en parlant des enfants, vous l'avez un tout petit peu mentionné tout à l'heure, mais vous organisez aussi des séances scolaires.
Oui.
Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut dire que vous faites de l'éducation à l'image via le documentaire, c'est ça?
Oui, en fait, on passe par les médiathécaires sur les communes qui sont en lien avec les établissements qui peuvent accueillir des classes, ou en lien avec les documentalistes des collèges et lycées. Et c'est comme ça que ça se fait, en fait, parce que on ne peut pas faire trop de démarchage, c'est au cas par cas, mais en tout cas, s'il y a une envie, un prof qui s'empare de l'outil cinéma pour parler de plein de choses, de la création, mais aussi de l'actualité. Et en fait, on a une dizaine de séances à peu près, et aussi on essaie de développer des ateliers de programmation, c'est-à-dire que les élèves puissent choisir leur film et ensuite présenter le film à leurs camarades, quoi. C'est-à-dire porter le film, voilà, pourquoi ils l'ont choisi, et mener le débat. Donc c'est ça, on le fait à Bain-de-Bretagne. Dans un collège Saint-Joseph à Bain-de-Bretagne.
Le mois du doc, pour la deuxième année consécutive, c'est aussi un challenge. Cette année, c'est un challenge d'écriture qui est organisé. Je crois que l'idée, c'est d'écrire une lettre à notre petite planète, c'est ça?
Exactement, parce que c'est la thématique nationale. Petite planète, c'est assez large. C'est à la fois ce qu'elle devient au niveau écologique, c'est les conditions de vie de chacun. Voilà. Donc c'est adresser une lettre. À notre chère Terre qu'on occupe tous et toutes, que voilà, et c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à écrire et puis on les publiera ensuite sous forme de livres, ou en tout cas on les mettra sur les réseaux si chacun, les gens peuvent rester anonymes, il n'y a pas de souci, mais en tout cas
faut envoyer à quelle adresse?
C'est à ma collègue Lorraine.
Alors, écrivez à Lorraine.
C'est lorraine@comptoirdudoc.org. Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à envoyer un mail aussi, ou à moidudoc@comptoirdudoc.org. Il y a tout sur les réseaux. En tout cas, il y a une pub pour ça. Et voilà, c'est le petit challenge d'écriture. On essaie de chaque année de lancer aussi des choses. Voilà. Aussi, de la création aussi pour tout le monde, quoi.
Quelle est la place du film documentaire à l'heure de la série, des plateformes, de l'immédiateté? Comment le format a-t-il changé et s'est-il adapté ces dernières années?
Eh bien, il y a eu le Covid qui est passé par là, qui a rendu peut-être plus accessibles les documentaires, on va dire en ligne. Il y a des plateformes qui existent, il y a la plateforme Tank, que vous connaissez peut-être certains, qui ont... voilà, ça coûte pas très très cher, c'est autour de 6 euros par mois pour avoir accès à toute la création documentaire internationale, ou des films qui sortent en festival, qui ont eu des prix, et du coup qui prolongent, en fait, si on n'a pas eu la chance d'aller au festival, bah, on peut les voir en ligne. Mais notre rôle à nous, c'est ça aussi. C'est-à-dire, le mois du doc, pour moi, je fais très attention aussi à regarder des films, des premiers ou deuxièmes films. Et souvent, c'est dur d'être sélectionné en festival. C'est rude. Ils reçoivent tellement de films. Donc nous, on est là aussi pour montrer les films au public. Pas forcément un public averti de festival qui est très critique des fois. Là, au moins, on peut faire circuler les films. Et des films des fois fragiles, ou en tout cas... Et y a un vrai retour, il y a un retour direct du public. Et puis, une chose importante aussi, nous, c'est qu'on a la chance d'avoir un financement de la région Bretagne qui aide cet événement-là, parce que ça, c'est la culture pour tous, hein, c'est des événements quasi gratuits. Comment ? De rémunérer les auteurs, c'est-à-dire les invités qui viennent, ils sont rémunérés pour venir parler. Et ça, c'est une vraie... comment dire ? C'est un soutien aussi à la création et aux auteurs, parce que... des fois, on peut aussi perdre son intermittence quand on diffuse le film, c'est pas payé. Au festival, on n'est pas rémunéré. Certes, c'est bien de montrer ses films, mais c'est...
Ça fait pas manger.
Et pas manger, c'est dur. Parce qu'on a envie de refaire des films après. Et des fois, ça peut enlever l'envie de continuer, quoi.
Si vous deviez conseiller un documentaire à nos auditeurs et auditrices, un coup de cœur, ce serait lequel ?
Bah, comme je vous disais, moi, sauf qui peut, j'aime beaucoup ce film, très très riche. Sur la formation à l'empathie, qu'on oublie un peu. On peut essayer de dire. Photophobia, le film ukrainien, Nights Island aussi, que je vous invite à aller voir à Creative Seeds. Un pays de papier. Et aussi un pasteur qui continue. Là, ce soir, moi, je vais avec le réalisateur à Verne-sur-Sèche. C'est sur un berger, Félix, voilà, qui est passionné par son métier. Pasteur, non pas la religion, mais le pastoralisme, en tout cas, voilà. D'élever les brebis. Et du coup, c'est un film aussi où on plonge dans la tête de Félix. Voilà, c'est une vraie création aussi cinématographique. Et il passe encore à Verne, encore à Rôtier le 25. Voilà, il y a encore. Mais je vous invite à aller sur le site de Comptoir du Doc, et il y a le catalogue en PDF et vous avez toutes les séances. Et parce qu'il y a pas mal de choses.
Eh bien, c'est dit. Merci Agnès Frémont. On le rappelle, donc le mois du Doc, c'est jusqu'au 28 novembre. Et si on veut participer au concours d'écriture, l'adresse mail
Lorraine. @comptoirdudoc.org. Je voulais faire un petit dédicace aussi quand même à Emmanuel Calac,
qui n'a pas pu être là
aujourd'hui. Et en fait, elle est coordinatrice des réseaux des bibliothèques et de l'événement Mois du Doc sur la communauté de communes de Bain-de-Bretagne, qui s'appelle Port de Loire Communauté, et qui est très active depuis 16 ans. En fait, Mois du Doc, ça a 25 ans. Et du coup, ils ont une quinzaine de projections dans toutes les communes. Et là, on va, par exemple, là, on va vraiment dans les petites communes de 400, 600 habitants, et on va dans la salle polyvalente. Et
il se passe plein de choses.
Et il se passe plein de choses. Voilà, je vous invite à voir la programmation.
Allez voir le programme sur le site internet. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
Bonne soirée.
C'est chouette.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
Julien est de retour pour sa chronique politique. Il s'est rendu au Café des Champs Libres le mois dernier pour échanger sur la montée du vote extrême droite.
Eh oui, le mois dernier s'est déroulé un café citoyen organisé par le média Splend sur l'extrême droitisation du vote RN. Une prise de parole d'un chercheur et d'une représentante syndicale alternée avec les questions du public. L'ambition était d'expliquer le résultat RN aux législatives 2024 et l'analyse des invités s'est tenue aux causes socio-économiques d'un vote et de la géographie de l'électorat RN. On a entendu des notions de précarité, de chômage, de suppression de services publics ou encore de transport. Un tableau que l'on continue d'entendre depuis des années mais qui n'endigue rien à paraître dans le constat. Et moi ce tableau, je dois dire qu'il commence à m'excéder. Non pas de dire qu'il est faux, mais plutôt qu'il est de moins en moins vrai, même si on continue de le dépeindre. Et pourquoi ? Parce que dans les faits, le vote RN se propage dans de nouvelles sphères sociales, dans des espaces périurbains, et que la condition économique n'est plus, elle non plus, une condition déterminante. Nous devons faire l'effort de dépasser cette analyse qui est très documentée, mais qui oublie un facteur primordial. je veux parler du facteur médiatique. Tout analyste ou apprenti analyste, dont je fais partie d'ailleurs, doit interpréter le vote RN selon une approche majoritairement médiatique. Cela veut dire que l'on doit considérer le vote RN comme le résultat de communication médiatique imposant ce qui doit être pensé. Les médias, pour rappel, nous donnent à penser ce sur quoi nous devons penser. Quand ils nous relaient des sujets ou des polémiques, c'est tout cela qui circule par la suite dans nos débats et nos discussions. Alors primo, on va considérer que les médias, quel que soit notre âge, notre métier ou notre lieu de vie, nous transmettent à toutes et tous les mêmes informations. Quand un débat politique est télévisé, retransmis sur les réseaux sociaux, il s'agit bien d'un contenu capable de toucher tout le monde en même temps. Et quand dans ces débats sont évoqués des sujets clivants ou stigmatisants, ces derniers finissent par infuser. Ils deviennent des sujets de société. L'exemple de l'immigration ou bien celui de l'insécurité en sont de purs produits, car en fait, il y a-t-il de l'insécurité en France ? Et au fond, qu'est-ce que l'immigration ? On a bien compris le projet politique du RN avec sa stratégie de les imposer médiatiquement selon des définitions qui lui sont chères. En second, un fait notable dans la dernière campagne européenne, c'est la forte présence de Bardella sur TikTok. TikTok en média social qui fonctionne, comme les autres, avec l'algorithme du buzz, à starifier le candidat. Qui lui d'ailleurs a très bien saisi les codes. Le résultat a donné un score très peu élevé chez les jeunes, mais à contrario, une image du bon homme bienfaisant qui s'est très bien implanté dans l'espace public. On peut clairement parler de banalisation d'un héritier du fascisme via une forme de starification sur les réseaux. D'ailleurs, Marine Le Pen exploite les mêmes espaces pour les mêmes intérêts. Et à ce stade, on n'a pas évoqué de questions socio-économiques. Il suffit simplement d'avoir un objet numérique connecté pour que la stratégie fonctionne. Enfin, dernier point, le préalable du facteur médiatique. C'est qui détiennent les médias qui nous informent et avec quel projet politique. En 2023, on relevait que 9 milliardaires détenaient 90% des médias en France. Des intérêts privés donc étroitement liés à la sphère médiatique. On retient entre autres Bolloré et sa stratégie d'influence avec CNews et C8, qu'il a d'ailleurs partiellement reconnu lors d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. La récente élection de Trump n'est pas sans faire écho à ce lien appartenance des médias et influence électorale. Trump est soutenu par des personnages sulfureux médiatiquement qui influencent la politique. C'est une stratégie voulue et ça marche. On pense à Elon Musk avec X, mais aussi à Lachlan Murdoch qui détient Fox News, la chaîne TV la plus regardée aux USA. On n'y parle plus du fond des sujets, mais uniquement de la forme. Et ce spectacle divertit tout autant, tout en banalisant des idées extrêmes. Pour conclure, il est vrai qu'associer le facteur médiatique et vote peut souffrir de quelques raccourcis, mais les faits montrent que les résultats électoraux sont en hausse chez celles et ceux qui ont investi le milieu médiatique dans toutes ses formes. Je pense donc que l'on devrait orienter nos réflexions vers ce sujet pour expliquer la montée du RN plutôt que persévérer dans l'explication socio-économique.
Merci beaucoup Julien, on voulait juste vous faire passer un tout dernier message avant de vous laisser.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Vous avez un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous, une déclaration d'amour ou un coup de gueule, un retour sur nos reportages peut-être. Laissez-nous un message vocal au 02 30 96 25 35. Il sera peut-être diffusé à l'antenne. Spill the tea, comme dirait Cyriane. On prend aussi les ragots. Merci Jovan pour la technique. On se retrouve lundi. Ah bah non, lundi, c'est férié.
Let's go, le week-end de 3 jours.
On se retrouve mardi pour une nouvelle émission de 6h avant minuit. Bon week-end.
Bon week-end.
Si, la radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.